principe actif. Une rediff, quoi.
Excusez-moi, j'avais pas mis le son, alors vous risquez pas d'entendre. Bon, ça doit pas être ça d'ailleurs. This is a song for Miss Hedy Lamarr. Erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web. She's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure. The light of her being, her exotic allure. Is torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream. Yes, it's all what it seems. Feels like a dream. But it's life and it's death. She can chant it like baby's breath. I don't believe humans anymore. I don't believe, I can't believe, I won't believe humans. Stares as you quiver in fear. Shameful, shameless, painful, painless. This song's for you, Miss Hedy Lamarr. How bright your light glows, lost white nights so long ago, so far away. Feels like a dream or a cosmic fiasco. I don't believe. I don't believe. I don't believe humans anymore.
C'est bien moderne pour une chanson de 1941.
Voilà, alors il y a eu une légère erreur dans la... Alors ce n'est donc pas, comme vous aurez pu vous en rendre compte, comment la bande-annonce de la danseuse des Ziegfeld Follies, que bah, je n'ai pas mise en fait, voilà. Et donc, par contre, c'est une chanson hommage de Jeff Beck et Johnny Depp. C'est lui qui chante, d'ailleurs, Johnny Depp. Et donc, il est à la guitare. Et Jeff Beck, bien sûr, à la guitare aussi. Donc, c'est une chanson qu'ils ont faite en 2022. Et c'est, ça s'appelle « This is a song for Miss Hedy Lamarr ». Voilà. Donc, voilà. Donc, excusez pour cette grossière erreur.
Bon, on va continuer malgré tout. Bon, voilà, Hedy Lamarr a donc des triomphes formidables sur le grand écran, mais elle continue à avoir une passion sans répit pour l'innovation, l'invention. Et quel que soit le lieu où elle vit finalement, les villes où elle tourne, elle installe toujours un atelier pour pouvoir s'adonner à son autre passion. Et bien qu'elle n'ait pas suivi d'études supérieures, c'est quand même une femme d'une intelligence hors du commun. Et elle a toujours des, enfin, elle aura toujours des, elle s'intéresse à tout. Enfin, on peut le dire oui, comme ça. Elle a des occupations très diverses. C'est raconté par l'écrivaine et historienne Viviane Perret, qui a fait dans son livre Une vie, une œuvre, raconte bien un petit peu tout ça, les fréquentations de scientifiques, d'artistes, son esprit en ébullition. Elle inventait tout et n'importe quoi. Un bouillon cube qui, lorsqu'il se dissolvait, devenait un soldat. Un collier fluorescent pour chien. Un système pour aider des handicapés à sortir de leur bain. Elle était sans arrêt à l'affût d'informations. Elle les transformait en inventions, écrit Viviane Perret. Alors, dans ce cadre-là, Hedy Lamarr va participer à l'effort de guerre. Et elle va partager avec son pays d'adoption ses connaissances en armement, connaissances qu'elle a acquises lors de son premier mariage avec Fritz Mandl. Bon, mais malgré tout, les Allemands ont une longueur d'avance et ils arrivent quand même à brouiller les fréquences radio qui servaient à guider les torpilles de l'armée britannique. L'inventrice veut alors mettre au point un système capable de détourner la fréquence des torpilles pour empêcher qu'elles ne soient interceptées. Et elle a une intuition, elle se dit il faudrait faire un saut de fréquence, c'est-à-dire que les torpilles les torpilles radio guidées puissent changer leur fréquence, en fait que les récepteurs puissent changer de fréquence en permanence. Donc elle ne, pendant ces années de Seconde Guerre mondiale, elle ne se contente pas du tout de jouer les starlettes, et son temps libre est investi par rapport à trouver des solutions, enfin des aides pour que la guerre soit menée à bien contre les Allemands. Et c'est durant cette période que le destin la met en contact en fait avec le compositeur George Antheil. C'est un pianiste américain qui a notamment écrit un ballet mécanique,
oui, composé, oui,
pour 16 pianos. Et ça reposait justement sur la synchronisation des instruments et la mise en place de sauts de notes grâce à un système de cryptage. Bon, alors ça c'est très technique effectivement, mais voilà, enfin c'était quelqu'un qui avait en fait travaillé aussi de manière scientifique par rapport à l'utilisation de ces pianos. Et ensemble, ils vont mettre au point un système de brouillage appliqué à l'armée, le Frequency Hopping Split Spectrum, étalement du spectre par saut de fréquence, grâce à un piano mécanique synchronisé avec les fréquences hertziennes. Et le duo dépose un brevet sous le nom Secret Communication System le 10 juin 1941. Alors, l'invention intéresse la Navy, mais finalement, elle finit par s'en désintéresser. Elle ne mesure pas bien l'importance de cette invention. Voilà. Les deux inventeurs, donc, ignorent un petit peu pendant longtemps que leur système sera utilisé ultérieurement, parce que là, ça a été abandonné, en fait, à ce moment-là.
Donc ça a été versé, ils ont, dans une version améliorée qu'ils ont utilisée lors de la crise des missiles de Cuba, là, quand les Américains étaient...
Mais c'est beaucoup plus tard, voilà, en 62.
Donc ce que je vous propose, bah, c'est d'écouter tout de suite un extrait du ballet mécanique de Georges Anteil. Donc là, c'est l'orchestre de Philadelphie, de percussion et piano. Et alors, on ne va pas tout écouter parce que ça dure presque 16 minutes. Alors on va en écouter un petit bout quand même.
Ouais.
Voilà, donc vous pouvez l'écouter en entier si vous voulez plus tard. Nous allons donc revenir sur sa carrière d'actrice et on va la retrouver dans un film romantique intitulé « Viens vers moi », mais également dans l'adaptation du roman réaliste de John Steinbeck, « Tortilla Flat », et aussi dans « Tondelayo » de Richard Thorpe, où, grimée en noir, elle joue une indigène de la Sierra Leone sur le continent africain. Et l'acteur et biographe Stephen Michael Shearers va qualifier son rôle d'exercice aguicheur d'érotisme des années 40 dans ce qu'il y a de plus vulgaire. Bon, voilà, donc elle remportait pas toujours un vif succès, mais bon. Et, alors c'est vrai que moi je l'ai vu ce film-là il y a longtemps, hein, mais voilà, et donc c'est vrai que c'est pas très crédible. Enfin à l'époque, dans les films, voilà, on grimait les acteurs en chinois, en noir, voilà, plutôt que de prendre des acteurs de couleur, bon, c'était.
C'est une autre époque.
Voilà. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale. L'antifasciste qu'elle est va participer en tant qu'exilé à l'effort de guerre américain, entouré de Paul Henreid, Sidney Greenstreet et Peter Lorre avec le film noir Les Conspirateurs de Jean Negulesco et un récit d'espionnage contemporain inspiré du succès de Casablanca. Et dans un registre proche, elle va jouer aussi dans Angoisse de Jacques Turner. En 1945, elle va interpréter le dernier film de son contrat avec la MGM, la comédie La princesse et le groom, réalisée par Richard Thorpe, avec Robert Walker comme co-vedette. Elle va aussi vendre 25 millions de dollars d'obligations de guerre en se rendant dans de nombreuses villes américaines et promeut des lettres de soutien pour les GI. Lorsqu'elle est libérée de ce contrat avec la MGM en 1946, elle va se lancer dans la production indépendante. Donc Le démon de la chair, réalisé pour partie par Douglas Sirk, autre émigré de Berlin, et signé par le Viennois Edgar Ulmer, choisi expressément par Eddie Lamar. Alors ce psychodrame en costume d'un romantisme un peu quand même exacerbé se déroule dans la Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle et offre son meilleur rôle à l'actrice, le portrait d'une criminelle schizophrène. Elle partage ici l'affiche avec George Sanders et Louis Hayward. Ce film demeure, avec Extase et Samson et Dalila, un de ses grands classiques. Donc l'échec de son film suivant, La femme déshonorée de Robert Stevenson avec John Loder, qu'elle épousera d'ailleurs plus tard, signe la fin brutale dès 1947 de son activité en tant que productrice. Et l'actrice passe alors de la comédie Vivons un peu de Richard Wallace avec Robert Cummings à la russe Anna Sten, au film d'espionnage la dame sans passeport, dont l'intrigue se déroule à la Havane sous Batista. Elle triomphe ensuite dans le péplum Samson et Dalila, réalisé en 1949 par Cécile B. 2000 et avec Victor Mature, George Sanders, elle avait déjà joué avec lui, et Angela Lansbury. Et puis elle s'attaque aussi à la comédie et à l'espionnage et sont réunis dans Une espionne de mon cœur de Norman MacLeod aux côtés de Bob Hope. Elle expérimente par ailleurs le western avec assez peu de succès, il faut dire, à la Paramount avec La terre damnée de John Farrow. Et elle va achever en fait sa carrière dans L'amante du Paris en 1954 de Marc Allegri, où elle incarne les mythiques Hélène de Troie, impératrice Joséphine, et dans le documentaire L'histoire de l'humanité, produit et réalisé par Irwin Allen, auquel participent également Ronald Coleman, les Marx Brothers, et où elle prête ses traits à Jeanne d'Arc. Toutefois, Eddie Lamar va se retirer dès 1957 après quand même une série d'échecs cinématographiques. Mais elle n'est toutefois pas oubliée, puisqu'en 1960, elle est honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Alors, ce que je vous propose là, c'est d'écouter la bande-annonce du film de Samson et Dalila.
Relive the colossal drama of the mightiest colossus that ever lived. Samson and Delilah, the immortal story of the strongest man in all history. A masterpiece of big screen entertainment. Samson, who alone and unafraid challenged and defeated the most dreaded army of his time. His daring exploits have become legend. The lion of the desert he fought with his bare hands. See as he saw the orgies of barbaric pagans that roused his vengeful fury. But Samson was ensnared by the seductive beauty of Delilah.
Daughter of hell.
His lust became a trap that led to his downfall and capture. Enchained, he was tortured and blinded. Here is the most spectacular scene of destruction ever filmed. Samson using his incredible strength to bring down the Temple of Dagon in crashing ruins. Cecil B. DeMille's Samson and Delilah.
Ah, il y a de l'action, hein. Donc, c'est à toi, Marie-Ancienne.
Ouais. Bah, écoute, on va continuer. Bon, on arrive dans la période moins faste, on va dire, de sa vie. Bon, pendant quelques années, elle poursuit une vie mondaine absolument formidable. Elle dilapide toute sa fortune. Et à la fin des années 60, elle va être arrêtée à plusieurs reprises pour vol à l'étalage de produits de beauté. Du coup, elle déménage de Californie, elle part de la Californie et elle va s'installer à New York pour mieux s'occuper de ses différentes affaires judiciaires en cours. Notamment, elle a une affaire en cours contre l'éditeur de son livre Ecstasy Enemy.
Oui, c'était une biographie.
Sur les droits d'un film italien inédit dans lequel elle avait joué, contre son ex-mari Howard Lee, qui l'aurait fait co-signer ses prêts, et aussi pour sa défense de l'accusation de kleptomanie.
Voilà, donc ça fait beaucoup
de choses.
Voilà, pour une sale femme.
Alors, il y a forcément, comme elle est encore très connue, on parle quand même beaucoup de son arrestation après son premier vol dans le grand magasin May Company en 66. Et on parle aussi beaucoup de son séjour pour surmenage dans un hôpital de repos de Los Angeles. Voilà, c'est le producteur Joseph Levine qui l'a un peu poussé vers cet hôpital. Elle avait travaillé avec ce producteur, elle avait commencé à travailler avec ce producteur sur un film d'horreur. Et finalement, il avait prétendu qu'elle avait déserté l'image et il l'a renvoyée. Là, c'est la fin de sa carrière à Hollywood, en fait. Elle sera de nouveau arrêtée en 91 en Floride. Alors, c'est toujours pour des produits de beauté, semble-t-il. Elle était obsédée par le vieillissement, en fait.
Oui, pour le...
Et du coup, certainement que les produits de beauté étaient trop chers ou qu'elle était kleptomane, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle volait des produits de beauté.
Voilà. Et, elle avait peut-être moins d'argent.
Ouais,
aussi,
je pense qu'elle était un peu... Voilà. Elle a tenté la chirurgie esthétique.
Oui, sans vraiment... Oui, ça n'a pas vraiment réussi. Et donc, du coup, elle qui était vraiment une très très belle femme,
c'était moins bien.
Voilà, c'était beaucoup, beaucoup moins bien. Voilà. Donc, on va vous proposer une petite chanson là. Et donc là, c'est Nat King Cole qui a fait une chanson sur le film, la chanson de Dalila, là, sur donc Samson et Dalila. Allez.
Delilah, Delilah, no. So enchanting, so fair. Ever near, she's the spirit of love, timeless love. She's warm as the fire is warm, softly leading beginners in love through the stars. Since time began, since love has been known, she's told every man why wander alone. Delilah, with so much to disclose, if you're seeking the secrets of love, Delilah, thank you. clothes. If you're seeking the secrets of love, Delilah knows. She knows.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Alors, on arrive en 1973. Les fondateurs de la première journée nationale de l'inventeur vont publier un communiqué de presse avec les noms d'inventrices, des noms inattendus, dont Eddie Lamar, la femme qui avait rendu les missiles plus furtifs. Eddie Lamar est alors âgée de 59 ans, elle est tout à fait surprise, elle ignorait jusqu'à ce jour que son brevet avait été utilisé, et elle essaie d'en obtenir les droits. Malheureusement, elle n'a jamais reçu de compensation financière pour son invention. Voilà, ça avait été estimé à une valeur de 30 millions de dollars. Après, 30 milliards de dollars. Bon, après, c'était une estimation. Malgré ses réclamations, elle ne savait pas que la législation américaine n'accordait que 6 années après le dépôt du brevet pour la réclamer. Et comme elle pensait que son invention n'avait pas servi, elle a réclamé trop tard, en fait. Alors, par contre, ce qui est important à noter, c'est que cette fameuse idée de saut de fréquence, ça a jeté les bases de nombreuses technologies modernes. Et que finalement l'influence de cette idée s'est étendue bien au-delà des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, puisque les applications pratiques ont pu voir le jour dans le domaine de la communication sans fil, les téléphones portables, le Bluetooth, la navigation par GPS, le Wi-Fi. Donc des choses qui sont très présentes maintenant dans notre quotidien. Ce n'est que dans les dernières décennies qu'une compréhension approfondie de l'importance de sa contribution à la technologie sans fil a commencé à émerger. En 1997, alors que le secret défense est levé sur son invention, Lamar et Anteil ont été même honorés du prix de la Fondation Pionnier. Une distinction méritée dans la catégorie invention et technologie. Elle vivait alors recluse en Floride. Elle avait 82 ans. Elle n'a pas voulu se rendre à la cérémonie. Elle ne voulait pas qu'on la voie telle qu'elle était physiquement. Elle avait peur des moqueries.
Les opérations esthétiques, de chirurgie esthétique, avaient été quand même un peu ratées. Et donc, elle était.
C'est une fois un peu triste. Au moment où on l'honore vraiment.
Alors, on va parler de quelques personnalités que la star a fréquentées de très très près. Voilà. Donc, le milliardaire Howard Hughes, par exemple, Sam Spiegel, qui est producteur, par exemple, de Sur le Quai ou Le Pont de la Rivière Kwai, qu'elle a rencontré à Berlin, Johnny Carson, qui était l'animateur du Tonight Show, le photographe Robert Capa, le réalisateur Frank Borzag, qui l'a dirigé entre autres sur Cette femme est mienne, l'acteur français aussi Jean-Pierre Aumont, les acteurs Georges Montgomery, David Niven, Errol Flynn, Marlon Brando, des acteurs et réalisateurs comme Orson Welles et Charlie Chaplin, Billy Wilder et Otto Preminger, et donc certains de ses partenaires comme Charles Boyer, Clark Gable, George Sanders, James Stewart, John Garfield, Robert Taylor, Robert Walker, Spencer Tracy, Rémi Land, et bon, c'est une liste.
Et d'autres. Et d'autres.
Donc elle a fréquenté du beau monde.
Et donc elle du monde connu en tout cas, voilà, parce que monde. Beau monde, ça dépend lesquels.
Oui, oui. Alors elle s'est illustrée notamment à travers 6 mariages et 6 divorces quand même. Alors son premier mari, c'était donc Friedrich Mandel, donc industriel.